Vous écoutez France Culture.
Comme chaque vendredi, Le Monde selon Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Alors arrivé donc hier à Genève, après une conférence sous tension à Montreux qui réunissait, on le sait, 40 pays et des organisations, les deux délégations syriennes vont enfin entrer dans le vif du sujet pour tenter de mettre fin au chaos qui a fait plus de 130 000 morts en Syrie. On appelle ça les négociations de paix ou la conférence de paix à Genève entre les émissaires d'Assad et les opposants syriens. Peut-être une question un peu générale, qui sait, mais vous savez tout, Hubert Védrine. Est-ce qu'une conférence pour la paix, dans l'histoire, a jamais-t-elle fait la paix?
Oui, il y en a eu. Il y en a eu, on va parler de la Syrie, mais il ne faut pas généraliser, mais ça dépend dans quelles conditions se tient telle ou telle conférence. Il y a eu des conférences pour la paix après les guerres. La conférence de Versailles, par exemple, en 1919, pendant 6 mois à Paris, qui aboutit au traité de Versailles, de Trianon, etc. Oui, mais la guerre est finie. Puisqu'il y a des vainqueurs et des vaincus, il s'agit d'organiser la paix. De même, les grandes conférences à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les conférences de Téhéran, puis Yalta, où il n'y a pas eu de partage, mais des engagements que Staline, d'ailleurs, n'a pas tenu après, Potsdam, ça, c'est des conférences où ils savent qu'ils vont gagner, ils savent qu'Hitler va être défait à un moment ou à un autre, et ils organisent la suite. Il y a déjà la tension entre les Occidentaux, enfin entre les Américains et les Soviétiques sur le sujet. Donc ça, c'est, moi, je peux même citer un autre exemple qui est là, au moment de la conférence d'Arusha en 92-93, François Mitterrand, Balladur, Juppé avaient vraiment cru avoir arrêté l'engrenage mortel au Rwanda en obligeant les partis à un partage du pouvoir. Mais c'est ça que les extrémistes de bord, en fait, ne voulaient pas. Mais à un moment donné, on a dit, ça y est, cette conférence de la paix d'Arusha permet de trouver une solution, ce qui permet de retirer les troupes, etc. Donc il y a quand même pas mal d'exemples. Il y a les conférences sur l'Indochine, celle que Mendès France avait menée en 1954 à Genève, précisément, où il y a Chuen Lai, déjà. Il s'agissait de reconnaître que la France avait perdu, en réalité, d'organiser la suite. Les conférences sur le Vietnam. Alors, il y en a qui n'ont
c'est
pas
quasiment
abouti.
D'ailleurs un anniversaire. C'était le 27 janvier 73
alors
à
ça, c'est
Paris.
Celle, et c'est celle qui a abouti. Voilà, mais ça avait commencé en 68.
Absolument.
Kissinger raconte qu'il négociait à Paris pendant 68. Vous voyez, pendant mai 68. Bon, mais il y a aussi des cas de réussite, mais qui sont souvent des réussites où on organise la paix après que l'affrontement militaire soit clairement conclu, dans un sens ou dans l'autre. Il y a des cas d'échec. Moi, j'ai eu à présider comme ministre la conférence de Rambouillet, dont j'avais lancé l'idée avec mon collègue de l'époque anglais, Robin Cook, sur l'affaire du Kosovo. Et on a échoué. On n'a pas abouti en raison de l'obstination de Milosevic, en dépit de ce que souhaitait la délégation serbe, d'ailleurs, et qui souhaitait énormément que Milosevic accepte le compromis qui avait été préparé. Bon, mais ça ne veut pas dire donc que, oui, il y a des cas de figure différents. La grande conférence sur la paix au Proche-Orient, qui avait eu lieu à Madrid en 91, qui avait été lancé par Bush père et James Baker après qu'il y a eu la guerre pour sortir l'armée irakienne du Koweït, en rassemblant tout le monde. La droite israélienne ne voulait pas un Shamir. Les Américains avaient fait pression. Pour une fois, ça avait d'ailleurs entraîné des élections en Israël qui avait conduit à l'élection d'Yitzhak Rabin, qui avait une vision différente. Bon, elle n'a pas abouti, sinon il y aurait la paix aujourd'hui, vous voyez, toujours pas. Voilà, donc ça dépend.
Évidemment, si, la grande date, c'est quoi, 1815?
Alors, il y a le congrès de Vienne.
Voilà, le congrès de Vienne, il faut le rappeler.
Vous avez raison de réintroduire un peu d'histoire et de longue durée dans tout ça. Le congrès de Vienne, après la défaite de Napoléon, en raison du génie de Talleyrand, je n'hésite pas à le dire, les choses se sont retournées et aussi la France soit mise en accusation, comme par exemple l'Allemagne après les guerres mondiales, la France est devenue partie prenante du nouvel équilibre en Europe. Du nouveau statu quo. Alors évidemment, c'est un statu quo réactionnaire contre les révolutions, ça a maintenu quand même la paix en Europe à peu près pendant tout le 19e. Et c'est quand Guillaume II a écarté Bismarck et a renoncé à la bonne vieille Realpolitik pour lancer notre politique aventuriste qu'on commence la marche à 14-18. Enfin, tout ça, ça dépend de
les contextes,
qui réunit évidemment la conférence. Est-ce que les parrains, on parle de parrains là, de la conférence sur Genève, donc États-Unis, Russie. Quelle est leur puissance sur les protagonistes? Quel est l'objectif des protagonistes? Est-ce qu'ils sont près d'un accord? Ils se réunissent pour le formaliser? C'est pas du tout le cas, là. Le Monde a très très bien résumé, là, il y a 2 jours, justement, les objectifs. Et on voit que l'opposition syrienne veut simplement affaiblir Assad ou le faire sortir, ou le démasquer, en tout cas. Que le régime syrien veut bloquer l'histoire du processus de transition, que demande l'opposition. Que les Occidentaux veulent évincer Bachar, c'est ce qu'ils ont beaucoup cru possible, en tout cas, au début. que la Russie ne veut que défendre ce régime et que l'Arabie et le Qatar veulent contenir l'Iran puisque leur problème à eux, c'est ce qu'ils appellent l'encerclement chiite. Ça n'a rien à voir. Ce sont des objectifs absolument antagonistes. Donc si la conférence de Genève a lieu, c'est peut-être que le début, espérons, d'un processus. C'est que les Américains insistent énormément et John Kerry fait un travail énorme et que les Russes quand même pensent qu'il faut qu'ils donnent l'impression de participer à la recherche d'une solution et pas simplement donner des armes au régime de Damas. Mais là, on est vraiment dans un cas où les choses ne sont pas conclues sur le terrain, donc il n'y a pas à organiser une paix qui n'existe pas. Ce n'est pas une conférence d'organisation de la paix, ce serait une conférence d'imposition de la paix.
En ce sens, son titre est trompeur, au fond. Enfin, c'est une conférence de début de dialogue, on va dire. Quoi. Enfin,
c'est le début d'un processus. Ce qui est remarquable dans la conférence, c'est qu'elle se tienne, c'est qu'il y a un début de dialogue, que des délégations que tout sépare et qui se haïssent forcément soient à peu près ensemble, que l'acteur Brahimi, qui est remarquable, réussira peut-être à les faire parler. Mais dans le meilleur des cas, ça peut conduire à cesser le feu, meilleur accès humanitaire, ce qui est déjà important pour ce peuple martyr. Peut-être un calendrier, mais un calendrier de rendez-vous, pas de transition. Pour le moment, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire que ce soit inutile et il ne faut pas ricaner sur les conférences qui, ce n'est pas à votre cœur. Je veux dire,
il ne faut pas
que le mur se dise ça ne sert à rien non plus. C'est mieux qu'il y ait ce processus que
pas. Est-ce que ça aurait été mieux, pour conclure en deux petits mots, s'il y avait eu, ça en a déjà beaucoup parlé, mais s'il y avait eu l'Iran tout de même alors ? Parler avec ses ennemis, disiez-vous dans une ancienne chronique.
On fait la paix avec ceux qui vous combattent, pas avec ses copains. Bon. Donc un jour ou l'autre, il faut que l'Iran soit dans le processus, bien sûr. Là, je n'ai pas tous les éléments pour dire s'il fallait absolument qu'il y soit, mais en principe, en général, si on veut que le résultat soit solide, concret et applicable, il faut que toutes les parties prenantes, y compris les plus nuisibles et les plus dangereuses, soient liées par les engagements qui seront pris le moment venu. Mais ce dont nous parlons à propos de Genève 2 en ce moment, c'est dans le meilleur des cas, simplement le début d'un processus.
À suivre donc avec vous. Merci Hubert Védrine, à vendredi prochain. Le Monde selon Hubert Védrine, à réécouter, télécharger bien sûr sur franceculture.fr.